Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Il est 19h30 à Paris. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
En France, 151 députés de la NUPES faisaient leur entrée à l'Assemblée nationale et c'était en juin dernier. Des députés sûrement remplis de fierté, gonflés d'espoir sur l'avenir de cette coalition toute neuve. Certes, sans majorité, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été le Premier ministre qu'il souhaitait être, mais l'accord historique s'est concrétisé entre insoumis, écologistes, communistes et socialistes. Près de 4 mois plus tard, les grincements de dents ont parfois remplacé certains sourires. La rentrée de septembre a tourné au calvaire, polémique à répétition, voix dissonante et puis surtout deux partis de la NUPES, LFI et ELV qui perdent leurs dirigeants. La NUPES peut-elle tenir avec notamment les prochaines élections en ligne de mire ? Tel est le débat du jour. Et pour en débattre, nous sommes en ligne avec Bastien Lachaud. Vous êtes député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la NUPES. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de Kantar Public. Bonsoir et bienvenue.
Merci, bonsoir.
Et Aurélien Devernois, à mes côtés, journaliste au service politique d'RFI, en charge de la gauche et des écologistes.
Bonsoir.
RFI.
Dans la réalité du moment, se dessine une sorte de front populaire qui est en cours. Et là, nous allons avoir une semaine hors du commun qui commence aujourd'hui. Et la puissance de notre marche est un appui à la mobilisation des salariés, notamment celle qui va avoir lieu en grève générale le 18.
Le 18 octobre, eh bien, c'est demain le souhait de Jean-Luc Mélenchon de voir naître un nouveau front populaire. C'était hier à Paris au micro d'Aurélien Devernois à l'occasion de cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique initiée par Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de juillet. Première question avec vous, Bastien Lachaud, en guise d'introduction. Le pari a-t-il été réussi hier ?
Écoutez, il serait compliqué de dire le contraire. C'est une foule massive qui a déferlé sur Paris, une foule à l'image du peuple, issue de toutes les origines, de toutes les catégories sociales, qui s'est rassemblée et qui s'est mobilisée contre les politiques gouvernementales, contre ces politiques faites en faveur des plus riches, au détriment de l'immense majorité du peuple qui aujourd'hui subit une inflation incontrôlée et que le gouvernement ne fait rien pour adoucir et pour apporter des solutions. Où est le blocage des prix nécessaires, le blocage des prix des matières les plus essentielles à la vie, l'énergie, l'essence, l'alimentation ?
On va y venir.
Ben oui, mais on va y venir peut-être.
Mais si.
Mais la réalité, c'est que les manifestants se sont mobilisés contre la vie chère, pour ces mesures, pour le programme de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon.
Un mot avec vous sur la fréquentation, Bastien Lachaud.
Oui.
Vous annoncez 140 000 personnes. Alors, si la réussite d'un événement se résume au nombre de personnes, quand on sait que la police annonce 30 000, un institut indépendant annonce 30 000, est-ce que vous n'auriez pas un peu exagéré les chiffres ?
Alors, c'est faux. La police n'annonce aucun chiffre. D'ailleurs, le préfet de police l'a dit lui-même ce matin, la police ne fait pas de décompte de manifestations politiques. Donc, cette source policière, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est pas la préfecture de police de Paris. Quant à l'Institut Occurrence, ses liens avec la Macronie sont plus que documentés et il ressurgit régulièrement lors de manifestations pour dénigrer le mouvement social. Donc, vous voyez, la source policière, ce n'est pas le préfet de police de Paris, donc ça n'existe pas. Le cabinet Occurrence, c'est un cabinet de la Macronie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se livrer à une guerre des chiffres. Moi, je peux vous expliquer comment le chiffre de 140 000 personnes a été calculé. Il suffit de savoir d'où part le cortège, où est la fin du cortège, quelle est à peu près la densité de manifestants au mètre carré, et de multiplier, et vous verrez que vous tomberez, vous aussi, sur 140 000 personnes, mais là n'est pas.
Et revenons à présent donc à l'objectif, justement, en faisant circuler la parole, Emmanuel Rivière, l'objectif pour vous là, de cette marche en tant qu'analyste, était-il seulement de lutter contre la vie chère, d'après vous, ou aussi de montrer, par les temps qui courent, que la gauche est unie ?
Je pense plusieurs objectifs. Il y a le fait de montrer que la gauche se mobilise et qu'elle se mobilise sur des sujets qui sont en phase avec les attentes, les préoccupations et en l'occurrence, on peut dire, les angoisses des Français. On est à un niveau massif d'angoisse, pas simplement en France, hein, dans 26 des 27 pays de l'Union européenne. En cette rentrée, ce qui focalise le plus l'attention, et c'est à peu près inédit qu'il y ait une telle unanimité, c'est l'inquiétude que suscite l'inflation. Je permettrais peut-être quand même d'intervenir pour dire que le cabinet Occurrence, que je connais bien, qui est un concurrent, mais que je connais bien, je sais comment ils travaillent, et moi, j'ai la plus grande confiance en eux. Alors après, vous avez le droit de ne pas avoir la plus grande confiance en moi, qui est la plus grande confiance en eux, et c'est vraiment des gens très, très sérieux. Et je vais ajouter, ça n'a pas tant d'importance que ça, parce que enfin, pour moi qui suis qui produit des enquêtes, des analyses, des données, en fait ce qui est important c'est de comparer. Et donc 30 000 selon ce critère-là par rapport à des enquêtes, à des mobilisations précédentes, c'est pas si mal. Et donc tant qu'il y a un rapport à peu près constant entre le chiffre des organisateurs et le chiffre produit, après il y a des querelles sur la méthodologie, mais s'il y a vraiment quelque chose dont je suis sûr, je me permets de le dire, c'est qu'il y a absolument pas autre chose que de la méthodologie dans l'approche des gens de l'occurrence qui sont des gens sincères.
Aurélien Devernoy, vous étiez pour RFI hier dans le cortège parisien. Peu importe, on dira alors le nombre de personnes, mais il y avait quand même certains absents notoires. Je pense à différents chefs de parti.
Alors oui, alors bon, c'est des absences qui étaient attendues, puisque vous parlez d'Adrien Quatennens qui s'est mis en retrait de ses fonctions à la France Insoumise et de Julien Bayou qui lui aussi s'est mis en retrait, mais de manière un petit peu différente, puisqu'il est quand même revenu participer régulièrement désormais au débat à l'Assemblée nationale. Ce sont des absents là au niveau de ces partis. Il y avait par contre un absent très fort, c'était le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, qui lui n'était pas venu officiellement parce qu'il était occupé dans sa circonscription, mais officieusement parce que la manière dont fonctionne la NUPES ne lui convient pas. Ça, c'est
et son porte-parole était présent, Yann Brossat.
Yann Brossat était là, donc ça a permis de limiter, parce que en effet, ce qui était quand même important hier, c'était d'afficher un front uni, parce qu'aujourd'hui, dans la bataille qui se joue à la fois dans la rue avec les mobilisations professionnelles et qui se joue à l'Assemblée cette semaine jusqu'à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement pour faire passer en force son budget, évidemment, il y avait nécessité pour la NUPES de montrer qu'elle était encore capable de mettre des gens dans la rue et de les mettre collectivement. Sauf que, malgré tout, cette marche, c'était aussi beaucoup la marche de Jean-Luc Mélenchon. Et on s'en est rendu compte quand on l'a suivi. Jean-Luc Mélenchon a profité de cette marche aussi pour se faire un test de popularité. Il a fait de longs bains de foule. Il est beaucoup allé voir les gens. Et c'est vrai que la différence se voyait visuellement entre la notoriété dont dispose aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et le reste des leaders politiques de la NUPES qui n'ont pas du tout cette même notoriété. On l'a vu par exemple avec Olivier Faure qui marchait lui aussi de manière, on va dire, moins... disons que c'était moins une rockstar que Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'était aussi un indicateur à la fois pour la France insoumise de montrer sa capacité à mettre en avant son leader et puis de montrer aussi que les patrons de la NUPES, ça restait eux.
J'ajouterai un autre absent, hein, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Pour la France insoumise, Bastien Lachaud, vous vouliez réagir?
Oui, moi je suis d'accord avec ce que disait votre journaliste, hein, une grande ferveur dans cette manifestation et la démonstration que ce que nous prônions depuis le début, quand nous avons fait l'Union populaire pendant la campagne présidentielle, c'était de dire l'Union se fera par la base, par le peuple, par les électeurs. C'est ce qui a produit le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et c'est ce qui a permis l'Union par le haut lors des élections législatives avec la NUPES. Et la NUPES aujourd'hui perdure. On nous expliquait qu'elle allait exploser, etc. Mais au final, elle est unie dans la rue, elle rassemble massivement le peuple. Quelle autre force politique, quel autre dirigeant politique que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui serait en capacité de rassembler autant de monde dans la rue à Paris? Personne.
Emmanuel Rive, oui.
Et je termine. Et elle existe au Parlement. regardez ce que fait l'intergroupe NUPES aujourd'hui sur le débat, sur le budget. Si je ne suis pas dans votre studio, c'est justement pour pouvoir rester à l'Assemblée, pour pouvoir voter avec mes collègues de la NUPES le rétablissement de l'ISF. La minorité présidentielle a été majoritaire pour refuser cette instauration de l'ISF grâce aux voix du Rassemblement national, mais la NUPES était unie. La NUPES est unie au Parlement, la NUPES dépose des amendements communs, la NUPES dépose des propositions de loi communes. Donc la NUPES existe dans la rue, la NUPES existe au Parlement, la NUPES va exister, j'en suis convaincu, lors des futures élections européennes. Donc arrêtons avec ce mythe que la NUPES n'était qu'une alliance de circonstances.
Emmanuel Rivière, entre la base, entre les sympathisants de la NUPES et ceux qui la dirigent, vous observez dans vos études une forme de dichotomie.
Disons que ce n'est jamais le même plan. D'ailleurs, il y a trois niveaux qui sont souvent difficiles à gérer. Et je pense que c'est notamment plus difficile à gérer pour les tendances de gauche, le niveau des cadres, des dirigeants. Il y a le niveau des militants qu'il faut embarquer, qui sont extrêmement documentés, très affûtés sur un certain nombre de thématiques, etc. Et le niveau de la base, comme disait Bastien Lachaud, mais qui sont ponctuellement des électeurs. De ce point de vue-là, il y a effectivement pas beaucoup de sujets de divergence. On a fait une étude pour Sciences Po Bordeaux qui a été analysée sous cet angle-là par la Fondation Jean Jaurès. La plupart des thématiques sont des thématiques sur lesquelles les sympathisants Europe Écologie Les Verts, socialistes et la France Insoumise sont à peu près alignés, qu'il s'agisse de la fiscalité, qu'il s'agisse du rapport à l'immigration, qu'il s'agisse des enjeux. Alors, sur les enjeux environnementaux, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus intenses dans l'idée qu'il faut vraiment renverser le modèle que d'autres. Mais c'est plutôt des questions de nuances, y compris sur l'Europe d'ailleurs. Les sympathisants de la France Insoumise ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils sont plus déçus. Mais ils ne prennent pas la sortie, le retrait. Là où, dans cette même étude, on a une divergence importante, qui est celle qui souvent émerge d'ailleurs, c'est sur la manière de faire de la politique. Typiquement, la question quelle est l'attitude qu'il faut avoir à l'égard du gouvernement, situe de manière diamétralement opposée, d'un côté les sympathisants Europe Écologie Les Verts et les sympathisants socialistes qui, au lendemain des législatives, disaient puisqu'il n'y a pas de majorité, il faut discuter, et les sympathisants LFI qui étaient un peu plus partagés, mais en majorité, pour prendre des postures d'opposition. Et c'est souvent ça, je trouve que c'est illustratif, ce qui s'est passé la semaine dernière sur la référence à la marche des femmes à Versailles. C'est un sujet passionnant qui agite la gauche depuis des décennies, même des siècles, de savoir quel est l'héritage de la Révolution française, quelle est la part qu'on en retient, est-ce qu'on fait le tri, est-ce que c'est un tout. Et ces sujets-là, pardon, ils passent très 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 au-dessus en fait de la tête des Français. Et parfois, les dirigeants, je trouve, de la NUPES arrivent à s'accrocher sur des choses qui paraissent. Encore une fois, ce n'est pas des sujets neutres, ce n'est pas des sujets sans intérêt pour les militants qui connaissent bien les références qu'il y a derrière. Et pour les électeurs, en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel.
Alors juste avant de donner la parole à Bastien Lachaud, Aurélien Devernois, il existe noir sur blanc des points de divergence, voire de désaccord. Je fais référence à l'accord passé pendant les législatives pour la NUPES. Il va bien falloir les régler un jour pour faire cause commune.
Il faut les régler. Après, c'est vrai que ce que vient de dire Emmanuel Rivière est tout à fait vrai. Quand l'accord législatif a été passé, il y avait 650 points de convergence et 33 points, on va dire, de divergence, en tout cas, où un accord n'avait pas été trouvé. La difficulté peut-être qu'il existe aujourd'hui, c'est que ceux qui ne sont pas totalement convaincus par le projet NUPES agitent très très fort les drapeaux de la divergence. Je pense évidemment à certains au Parti socialiste, mais peut-être encore plus fortement par Fabien Roussel au Parti communiste, qui, par exemple, sur la question du nucléaire, est totalement droit dans ses bottes et n'a pas spécialement envie d'en discuter, ce qui forcément pose problème avec les écologistes et également avec la France insoumise, qui, dans son programme présidentiel, avait mis très en avant la question de la transition énergétique et de l'abandon du nucléaire. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent peuvent hérisser, mais qui ne sont pas complètement impossibles à surmonter, très clairement, y compris au niveau de l'Europe. Là aussi, LFI a fait un peu son aggiornamento, c'est-à-dire que durant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fortement adouci son propos par rapport à 2017, ce qui a permis de rassurer. Hein, moi, je me rappelle d'un meeting à Strasbourg, dont Jean-Luc Mélenchon, où des gens étaient venus l'écouter, pas forcément des militants LFI, et avaient dit « bon, là, c'est déjà plus acceptable que ce qui se passait avant ». Donc, ces divergences-là ont la capacité d'être dépassées, je pense. La question, après, ça va être comment les luttes de pouvoir au sein des partis, et là, on va y rentrer de manière très concrète dans les prochains mois, comment ces luttes de pouvoir au sein des partis et les ambitions de chacun au sein des partis vont permettre ou empêcher à la NUPES de rester unie et d'avoir réellement un projet commun au-delà des simples échéances électorales. Et ça peut être une vraie difficulté.
Bastien Lachaud, sur les points de divergence, vous en faites quoi là? Ils sont mis sous le tapis pour l'instant ou ils peuvent ressurgir à tout moment?
Écoutez, à un moment donné, soyons cohérents. Lors de l'élection présidentielle, on nous expliquait il faut faire l'unité, même si vous n'êtes pas d'accord, faites l'unité pour battre la droite. Nous disions pas question de faire l'unité si nous ne sommes pas d'accord sur un programme, parce que les électeurs ne nous le pardonneraient pas. Donc, il n'y a pas eu d'unité, parce qu'il n'y avait pas d'accord sur le programme. Et nous avons fait la démonstration avec le score de Jean-Luc Mélenchon, avec 8 millions de voix, que les Français, c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent de la clarté, ils veulent un programme, ils veulent des mesures claires de rupture radicale avec l'ordre établi actuellement.
Et pour répondre à ma question,
j'y viens. Aujourd'hui, nous avons un programme qui nous rassemble sur 655 points, comme vous venez de le dire vous-même, et il y a quelques points qui ne font pas
comme le nucléaire.
Comme le nucléaire. Mais nous avons un accord sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'on fera un référendum. Donc, nous trouverons les moyens de régler ces questions, parce que ces questions ne sont pas fondamentales, parce que même sur l'Europe, on nous disait « l'Europe, la pomme de Discord, jamais vous n'y arriverez », etc. Mais au final, regardez, nous avons des formulations, nous avons des propositions communes sur l'Europe. Nous sommes d'accord pour désobéir aux traités européens dans le respect de l'état de droit.
Oui, alors Bastien Lachaud, c'est quand même variable selon les partis, c'est-à-dire que le concept désobéissance...
Je vous parle du programme...
J'entends bien, mais dans la pratique, si vous mettez Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et LFI face à un même dilemme au sein de l'Europe, tout le monde ne va pas forcément réagir de la même manière. C'est aussi ça qui peut...
Je n'en suis pas aussi convaincu. Je n'en suis pas aussi convaincu parce qu'une fois que nous nous retrouvons devant les problèmes concrets, comme on le fait actuellement au Parlement français, eh bien, nous apportons les mêmes réponses. Donc, je pense qu'une fois que nous serons confrontés aux mêmes problèmes, nous arriverons à nous mettre d'accord. Et vous voyez, maintenant que nous avons un programme, maintenant que nous avons une stratégie commune, eh bien, vous nous dites, mais vous ne pouvez pas rester unis parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point. Mais il y a 6 mois, vous nous disiez, il faut que vous unissiez même si vous n'aviez pas de programme. Soyez cohérents, soyons cohérents. Aujourd'hui, nous avons un programme commun, nous avons une stratégie et nous arrivons à être d'accord et à agir de commun. Évidemment que des insoumis restent des insoumis. Évidemment que des écologistes restent des écologistes et que les socialistes restent des socialistes. C'est ce qui a fait la force de la NUPES. Donc, évidemment...
Et que des communistes restent des communistes.
Évidemment que Olivier Faure ne s'exprimera pas de la même manière que Jean-Luc Mélenchon. Mais très bien, il ne s'adresse pas forcément aux mêmes électeurs. Il n'a pas la même manière de convaincre. Jean-Luc Mélenchon sera et restera Jean-Luc Mélenchon. Et si aujourd'hui, il y a une dissolution que nous n'appelons pas, mais si elle y a à l'arrivée, nous n'aurions pas peur de l'affronter, qui d'autre que Jean-Luc Mélenchon pour conduire la NUPES et être candidat?
C'est une vraie question. Un mot toujours sur le programme et la politique. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sous-estime le décalage entre son récit plutôt révolutionnaire, eu égard encore au dernier tweet de la semaine dernière, et les attentes quotidiennes des Français, Bastien Lachaud?
Je ne pense pas. Regardez, il ne fait pas des références en l'air. D'ailleurs, le parcours du marathon des Jeux Olympiques fait bien Paris-Versailles en hommage à la marche des femmes. Donc si c'était une marche si sanglante, si honteuse pour l'histoire de France, je pense que les organisateurs auraient choisi un autre symbole, de manière plus sérieuse. Je pense que notre peuple est matricé par la Révolution française. La République est née de la Révolution française et le peuple français est un peuple politique. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est peuple, qui fait peuple, qui se fait peuple par les institutions qu'il accepte en commun et qu'il se donne. C'est-à-dire que le peuple français est né de la Révolution française et que la grande histoire... Vous savez, il est des épiphénomènes et il est des phénomènes de temps long. Eh bien, la Révolution française est un phénomène de temps long. Nous sommes le seul pays d'Europe qui a comme devise liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas une devise neutre, c'est une devise forgée par Maximilien Robespierre lors de la Révolution française. Et donc, toutes les références à la Révolution française, ça renvoie à d'autres références. Ça renvoie ça renvoie à la résistance, ça renvoie à la commune, ça renvoie, etc., etc., à toute cette lutte qui a matricé le peuple de France.
Aujourd'hui, oui, s'il vous permettez, donc, pour faire circuler la parole, Emmanuel Rivière, aujourd'hui, si la NUPES était encore en quête d'espoir, est-ce que l'incarnation de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale passe par Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'à travers vos enquêtes d'opinion, vous observez quoi? Qu'il rassemble autant qu'il divise?
Oui, c'est un peu ça. Moi, je vais me référer évidemment au baromètre Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine qu'on a publié au début du mois d'octobre. Et la question, voilà, c'est une question sévère. Est-ce que pour chacune des personnalités, est-ce qu'on souhaite qu'ils jouent un rôle important dans les mois et les années à venir? Donc ça demande à exprimer un peu de désir. À cette échelle du désir, pour trouver le premier représentant de la NUPES, il faut aller chercher la 10e place. Et on a d'ailleurs à peu près à égalité Fabien Roussel, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui sont pas dans le même statut. Jean-Luc Mélenchon est clivant. Alors, il n'est pas le seul clivant. Marine Le Pen est clivante. Emmanuel Macron est clivant. Éric Zemmour l'était bien davantage encore pendant la présidentielle. Mais il y a cette difficulté qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, quand on analyse ça selon le positionnement gauche-droite des Français, évidemment, beaucoup plus attirer l'attention des gens qui se situent très à gauche. Et il y a dans les éléments de son image difficultés à aller un peu plus accrocher ceux qui sont hésitants sur toutes ces questions qui ont été évoquées par Bastien Lachaud, et notamment la formulation de désobéissance européenne qui peut heurter des électeurs qui se situent vraiment comme électeurs de gauche, mais qui se demandent ce qu'on met derrière et si ça traduit une posture anti-européenne. Encore une fois, les sympathisants et les électeurs LFI ne sont pas anti-européens, ils sont déçus.
Aurélien Devernois.
Les européennes, donc les élections qui vont avoir lieu en 2024, ça va être d'ailleurs le premier probablement gros test pour la NUPES, parce que là, il va falloir montrer, justement, Bastien Lachaud disait qu'il y a un programme commun, sauf que ce qui se profile pour l'instant, et très clairement, par exemple, chez les écologistes, c'est qu'il y a volonté de ne pas faire liste commune. Ça, c'est quelque chose qui se dessine, et je ne vois pas trop comment ça peut changer d'ici un an et demi, cette volonté d'y aller seul. Au vu des forces en présence pour le congrès qui va se dérouler le 10 décembre.
Des bons résultats qu'ils avaient obtenus lors des dernières élections.
Qu'ils avaient eus en 2019. Ça va être très très compliqué pour les autres partis de la NUPES d'être capables de les emmener dans une liste commune. Ça sera peut-être éventuellement un peu plus simple avec les communistes, voire avec les socialistes. Mais là encore, pour les socialistes, il faudra voir ce que va donner le congrès du mois de janvier. Donc il y a un vrai souci, je pense, non pas de cohérence et de capacité de travailler en commun, comme le notait Bastien Lachaud à l'Assemblée, mais de dynamique interne et d'enjeux internes qui font que la NUPES, elle va devoir passer par différentes épreuves au fil des 4-5 prochaines années pour éventuellement arriver en resserrer lors de la prochaine grosse échéance qui sera 2027.
L'élection présidentielle.
Il y aura les européennes, il y aura les municipales où là, ce sera peut-être un peu plus facile de faire des listes communes. Mais c'est évident que les adversaires de la NUPES vont fortement insister sur la difficulté ou l'incapacité de la NUPES de faire liste commune aux européennes pour dire, mais regardez, en fait, ce projet ne tient pas la route quand il s'agit de défendre les intérêts particuliers de chacun.
Il nous reste 5 minutes. Emmanuel Rivière, vous vouliez apporter un éclairage supplémentaire.
Oui, deux points rapidement, qui sont peut-être des points de fragilité. Il peut y avoir un intérêt évident de faire liste commune qui est d'être symboliquement en tête. C'est jouable pour la NUPES. La question, c'est de savoir qui ça intéresse vraiment d'être symboliquement en tête. C'est très important il y a 4 ans d'être symboliquement en tête aux européennes 2022 et on a l'impression qu'on ne se souvient plus qui était en tête. En l'occurrence, c'était la liste de Jordan Bardella. Et l'autre angle, c'est ce à quoi sert une élection européenne. Ça sert à désigner des députés qui vont ensuite interagir beaucoup en groupe. Et là, il y a une quasi-certitude, je pense, hein, c'est que les sociodémocrates européens n'ont pas vocation à faire groupe commun avec la gauche unie européenne et, ni avec les Verts européens. Alors, ils peuvent voter des textes ensemble, bien entendu. Et l'autre élément peut-être de fragilité, c'est qu'il y a, dans le rapport de force actuel, tel qu'il est reflété à l'Assemblée, quelque chose qui découle assez logiquement de la présidentielle et du succès de Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble de la gauche et au premier tour. Quand on regarde dans nos enquêtes les nombres de sympathisants par parti politique, c'est beaucoup plus équilibré. On ne retrouve pas cette suprématie de la France insoumise. Donc c'est vrai que ça peut être tentant pour les socialistes, pour les Verts, de dire ben, saisissons l'occasion, comptons-nous. Et tout dépendra de la manière dont on va vivre la NUPES pendant quelques mois. Est-ce que la tentation de se compter et de rééquilibrer les choses prévaudra et du coup fera renoncer à la liste commune en dépit des avantages que je citais.
Un prochain test grandeur nature, Bastien Lachaud, député à la France Insoumise. Les élections européennes, donc au printemps 2024, le chemin est encore long. Il est sûr, vous souhaitez des listes uniques, communes, sous la bannière NUPES.
Évidemment. Là, il faut se rendre compte de ce qu'a été la NUPES pour le peuple de gauche. Nous avons vu, lors de ces élections législatives, le peuple de gauche sortir, ressortir, être mobilisé comme rarement je ne l'avais vu. Et nous avons suscité un espoir immense, et un immense espoir que nous avons retrouvé dans la rue hier. Donc, l'espoir né de la NUPES existe toujours. Et qui oserait aujourd'hui sortir de la NUPES, détruire cet espoir et espérer l'emporter?
Je pense qu'aujourd'hui, les écologistes, très concrètement, Bastien Lachaud, pour les côtoyer régulièrement, je peux vous assurer que les écologistes, pour l'instant, ne sont pas du tout disposés à faire liste commune pour les européennes.
Pour l'instant, ils ont un congrès, laissons le congrès trancher, nous en reparlerons après, mais les écologistes étaient fort peu disposés à faire un accord législatif avec nous avant les élections présidentielles. Vous voyez, les choses évoluent, laissons les choses évoluer. Je pense aujourd'hui que la NUPES a fait la démonstration hier de sa puissance, de sa force, de sa capacité propulsive dans le peuple, et bien folle sera celui qui voudrait le réduire à néant en la faisant exploser.
Bastien Lachaud, la France insoumise, député de Seine-Saint-Denis et membre de la NUPES, on vous laisse retourner à vos travaux en quelques mots. En l'occurrence, là, vous travaillez sur quoi à l'Assemblée nationale?
C'est le vote du budget et on est sur le vote de la fiscalité sur le patrimoine.
Et les 151 députés de la NUPES sont tous d'accord pour voter avec vous?
Exactement, et nous avons tous voté le rétablissement de l'ISF, et malheureusement, l'alliance LR, Renaissance et Rassemblement National nous ont fait obstacle.
En direct de l'Assemblée nationale. Merci Bastien Lachaud d'avoir participé à cet entretien. Emmanuel Rivière également, nous vous remercions, directeur international pour les études politiques de Kantar Public. Merci également à Aurélien Devernois, en charge de la gauche et des écologistes pour Radio France Internationale. Vous étiez notamment hier à cette marche contre la vie chère. Ainsi se referme donc cette émission. Merci à tous de nous avoir écouté. Réalisation Laurent Philippot, coordination Florence Ponce, documentation Simon Carteret, rédaction en chef Patrick Adam. Demain, même heure, pour un nouveau débat présenté par Romain Ozoui. Dernière information politique, Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, sera l'invitée demain soir de Mardi Politique sur France 24 et RFI.